Albert Londres, La Chine en folie, chose vue, 1923. Rois, ministres, officiers, gens du peuple, à bas de vos chevaux. À Pékin, dans l'enceinte du palais d'hiver, face à la montagne de charbon aux cinq pics et cinq pagodons, sur une stèle millénaire en cinq langages, mongol, manchou, chinois, turc et tibétain, ainsi la vieille Chine orgueilleusement apostrophait le passant. À vous tous qui désirez me suivre par les trouées obscures du céleste empire, en déliquescence, homme de peu ou de bien, traîneur de mélancoliques savates ou abonné de rubriques mondaines, moi, diable blanc et barbare d'Occident, du haut du rickshaw, pousse-pousse, qui me roule présentement sur le sol immonde, et vénérable de la Chine, je crie, gens du peuple, officiers, ministres, rois, bottez-vous jusqu'au-dessus du genou, armez-vous de pincettes pour prévenir le contact de toutes choses, et en avant. Chine, chaos, éclat de rire devant le droit de l'homme, mise à sac, rançon, viol, immobile l'argent, un but l'or, une adoration la richesse. Du bandit de deuxième classe au plus authentique tyran, une unique idée, diriger vers sa demeure des brochettes de sous de bronze ou des wagons craquant sous l'or. Le peuple est une punaise que les hommes en armes écrasent dès qu'ils osent sortir des plaintes. Si vous désirez rajeunir, soyez satisfaits. Nous retournons à 7 siècles en arrière. Le territoire est livré aux grandes compagnies. Nous sommes revenus à l'époque de Duguesclin. Duguesclin n'apparaît pas. 21 provinces, 21 tyrans. L'un vend sa part de Chine au Japon, l'autre aux Américains. Tout est mis à l'encan, fleuves, chemins de fer, mines, temples, palais, bateaux. Pour chacun, le pays est un butin. Il ne s'agit que de faire main basse dessus, alors on ouvre l'enchère. Qui veut des locomotives? Qui dit tant de dollars? Vous, Tokyo, bon, à le juger. À qui est trésor des empereurs, Ming, avec le marché de pétrole, par-dessus le marbre compris, à l'Amérique, à le juger. Gabelle, taxes, impôts, toutes les ressources sont pour les généraux. Si on en prenait un au retour d'une de ses tournées, alors que ses poches débordent et qu'on l'incinéra, ce ne serait pas de la cendre que rendrait le four, mais du métal en fusion. On fondrait une cloche avec ses restes. Mais il faut bien qu'ils payent leurs soldats, ces généraux-là, direz-vous. Oui, là, bon peuple de chez nous, ils paient leurs soldats par un jour de pillage chaque mois. Quand les Chinois barbonneurs en connaissent la date, ils se précipitent chez le Tukim. Ces tyrans s'appellent Tukim. Mais vous écartez-le pas? Nous réglerons les dépenses. Combien veux-tu? Les villages moins malins sont ravagés. Les dames qui ont horreur de l'imprévu dans le plaisir se gênent dans les puits pour échapper aux rudes déchaînées. Que les puits sont étroits, qu'elles doivent avoir de petits corps. Dans le Maomingam, à 800 km de Pékin, au centre de la boucle du fleuve jaune, sur la ville d'Omahato, naguère les bandits s'abattent. Ils enlèvent les femmes. C'est généralement une marchandise de bonne rançon. Ils les sous-pèsent. À leurs yeux, l'une vaut 100 dollars. Oh, ce n'est pas qu'elle possède une jolie petite bouche en forme de cerise, mais le mari est riche. Hélas, le mari n'est pas seulement riche. Il est mufle aussi. Je veux dire qu'il aime autant son coffre que sa femme. Alors il vient trouver le chef. « Je suis pauvre, dit-il. Voilà ce que je puis faire. 50 dollars. Bien, dit le chef qui empoche. Moi, je suis pour la justice. Avance. » Il ouvre une porte. Les otages sont alignés. « Où est ta femme ? » ?»« Ah, celle-ci. Parfait. » Et de son sabre, il la coupe en deux. Voici ta part. Quand tu rapporteras 50 dollars, tu auras l'autre moitié. Ailleurs, par un jour de haute débauche militaire, les notables de la ville promis au sac n'avaient rien vendu, voulu savoir. Chacun avait enterré son magot. Il fallait pourtant que la horde se payât. Le Tumtum, par un ordre du jour, lui avait donné 24 heures franches de liberté pour cela. Les ravageurs envahirent les maisons, se saisirent des enfants, et par les fenêtres les repassèrent aux copains en bas dans la rue qui les recevaient sur la pointe de la baïonnette. Ainsi sortit la galette. Ce n'est pas de la chronique du temps de Marco Polo, c'est de l'histoire de 1920. L'Achille a perdu la tête. Par compensation, elle a deux cerveaux, Pékin au nord et Canton au sud. Dans le sud, un homme qui s'appelle Sun Yat-sen s'est assis carrément un jour dans un fauteuil de bois noir, au-dessus de quoi il était écrit « Président de la République ». Il est président de la République du Sud, comme moi je suis en ce moment propriétaire de l'hôtel de Pékin, parce que j'y occupe la chambre 518. Sur 5 provinces, 3 ne lui obéissent pas, et dans Canton, sa capitale, le tiers des forces est hors sa main. Les 3 provinces réfractaires ont pour roi un M. Chen Qiongning, qui crache délibérément sur le sol en signe de démenti chaque fois qu'on dit que Sun Yat-sen est son président. Mais il n'a pas tort, et je le démontre. L'ensemble des sans-métiers, des chenapans, des trainlocs et autres pouilleux formant les armées du Sud fait un total de 350 000 fusils. Et sur ces 350 000 fantassins de la dèche, l'homme cracheur, Chen Qiongning, en possède 100 000. Et l'homme qui est président de la République, comme moi je suis propriétaire de l'hôtel de rue Pékin, 30 000. Et les 220 000 qui restent, c'est la pagaille, mercenaire de simple touquet, ayant plus de fusils que de cartouches, usant celles qu'ils touchent à se tirer dans les jambes, n'obéissant que pour piller, se neutralisant en d'eux-mêmes, courant l'hiver après les moutons pour leur voler leur peau, et crânant l'été et les fesses à l'air. C'est le Sud. Ah, le Nord a pour capitale Pékin. Au point de vue politique, Pékin est une ville dans le genre de Saint-Denis et de Sceaux. Elle est supprimée. Il est bien à Pékin, président de la République, qui habite un palais céleste et impérial de l'autre côté des lacs de Nénuphar, dans la ville interdite. Mais je crois que c'est lui qui est interdit. Il n'est président de la République que pour les jocrises de Monacabi et les ministres plénipotentiaires du quartier délégation. Le seul être qui lui obéit, c'est tibétain. C'est pas un homme, c'est un chien. Deux tyrans, deux super Tukyong, Tsang Shaolin et Upefu règnent en Chine du Nord. Et ce sont les deux Bouddhas de la guerre. Tsang Shaolin est au nord, capitale de Mukden. Il a 300 000 hommes et près de lui, derrière un paravent, le Japon. Upefu est au centre, 300 000 hommes aussi. À son côté, blotti dans l'ombre d'un grand dollar, se tient l'Amérique. Le lundi, Tsang Shaolin, juché sur l'extrême pointe de la Grande Muraille, là où solennellement elle s'enfonce dans la mer, crie à Pékin, les lèvres au porte-voix, « Chassez-moi ce ministère, le président du conseil me dégoûte, allez génie, rompez !» Alors le président du conseil saute brusquement sur ses pieds, attrape un train en marche et se réfugie à Tlemcen, sur la concession française dont les 3 jours auparavant, au cours d'un magnifique mouvement oratoire, il demandait la suppression. Et le mardi, Upefu, campé au milieu du grand pont du fleuve jaune, tonitru. « Tsang Shaolin n'est qu'un âne, le président du conseil restera à Pékin, j'ordonne !» Et le président, brillant du conseil, à pas de loup, rejoint de nuit son ministère. Alors Tsang Shaolin, de son trône, regarde Upefu sur le sien et lance. « Prends garde, fils de chienne, j'astigue mon escopette !» Et il chantonne « Avec moi, j'ai le Japon, pompon, tu peux croire que c'est bon, que les mânes de tes ancêtres rôdent insatisfaits hors de leur cercueil, lui renvoie Upefu. » Il murmure « Avec moi, j'ai l'Amérique, clic-clic, et matrique, vatatrique. Tel est le pays folle où je vous emmène, compagnon d'aventure. » Fantastique histoire de Tsang Soulin. Mugden, oh, j'ai froid. Qu'est-ce que les trains dans les régions sumériennes devraient arriver à 6 heures du matin? Le jour lui-même semble prévoir ce qu'il attend dès qu'il montrera le nez. Aussi n'ose-t-il sortir de la nuit. Une pyramide. Ah oui, Mugden, 1905, où les officiers de Sa Majesté le Tsar firent la noce au lieu de faire la guerre. Que j'ai froid! Je viens ici pour voir Tsang Shaolin, chef de bandits Hongkongs, ou Moustache Rouge, Super Tukun du Feng Tien, maréchal de l'armée chinoise, roi de Mandchourie, dictateur de Pékin, tyran absolu. Un as. Il naquit dans le sud d'un père coulis, pousse, et d'une mère avaudeuse de harde. Préférant la volupté de traîner sa natte dans les égouts chinois à l'orgueil d'être un lettré, il apprit pas à lire. Il cherchait des plantes au sucre mystérieux pour guérir les animaux malades de mauvais traitements. Ce fut sa première vocation, devenant vétérinaire comme d'autres, s'installe rebouteux. Mais le Japon décide de sabrer la Chine. Nous sommes en 1894. Le petit Pouilleux, Tsang, raflé par les recruteurs, est enrôlé dans les armées de l'empereur de Chine. On lui met des chaussures, on lui pose une tunique. Ça le gêne, il déserte. On le traque. La maréchaussée bat la campagne, forçant ses pareils. S'il est pris, il perd la tête, pour l'exemple. Il fuit et tombe près de Nucian, dans la ferme Saint-Joseph, que tiennent les sœurs de la Providence, françaises, saintes filles et hautes armes. Il dit que ses ennemis sont assez chauds, supplie qu'on le cache. On le cache. Il devient domestique, traite les vaches, va au puits. 2 semaines passent, l'hospitalité chrétienne touche à sa limite. On va le renvoyer. Il implore, « Alors, faites-moi grécumène !» Va pour le Christ, il se fait catéchumène. On lui apprend les prières apostoliques. Son triomphe est le credo. Il le chante comme un refrain de café-concert en tondant les moutons. Mais les guerres ont toutes une fin. Il le faut pour qu'elles puissent recommencer. Et les gendarmes alors disparaissent des routes. Tsang sait cela. Il flaire, la voie est libre. Et il détale, plantant là son sabre éternel. Il revient dans son pays, à Yuanchang. Il a 22 ans, c'est le bel âge pour choisir une carrière. Sur le chemin du retour, il a trouvé 7 fusils. Il racole 6 champions de son âge, et avec lui, comme chef, cela fait aussitôt 7 brigands. Ses premiers pas annoncent l'homme qu'il sera. Il établit les lois de sa compagnie, sa main de fer. Ses brigands n'auront pas le droit d'attaquer dans le village. Ils n'ont champ libre qu'à 2 lis, 1200 mètres, de la dernière maison. Ils ne chercheront d'abord qu'à dépouiller le passant. Tueront s'il le faut, mais ne toucheront, tortureront que s'il y a lieu. Ses affaires vont au mieux. Sa maîtrise impose, on vient à lui. Sa troupe s'enfle. Les Honghouses ou moustaches noires rouges, les plus fameux bandits de Mandchourie, dont les lettres de noblesse remontent au-delà du déluge, Noé, pour en conserver la trace en ayant emmené 2 dans son arche, se range sous son sabre. C'est la puissance. En rien de temps, il règne sur une province. 10 ans passent vite. Les Japonais et les Russes tombent alors subitement amoureux fous du pays de Matin, calme, qui profite le joli petit nom de Corée. Ils décident de s'entretuer pour les beaux yeux de cette fiancée. C'est la guerre. Sur les champs où doit mener sa danse macabre, le coupe-tête Tsang Shaolin est une force. Les Japonais louent Tsang Shaolin, lui donne argent, armes, souliers et bénédictions. Et le voilà espion et franc-tireur. La guerre cesse, Tsang est riche. Il tient maintenant la Mandchourie entière sous son pistolet. Ce n'est pas un bandit sans référence, c'est un chef de bande chevronné. L'Empire chinois ne peut plus ignorer Tsang. On doit compter avec lui. On lui offre de rentrer dans l'armée régulière avec grade de colonel et décoration du tigre, 3e classe. Le compère se hâte, sourit intérieurement et accepte. Et le voilà officier supérieur de l'armée de l'Empire. On lui laisse entendre que sa carrière serait tout de même plus rapide s'il donnait une preuve de sa conversion. L'ambition le tient, les Japonais aussi, qui lui disent « Va donc !» Et il donnera toutes les preuves que l'on voudra. L'occasion se présente. Pékin voudrait justement se débarrasser de Tu Lishan, autre chef de moustache rouge. Tsang Shaolin invite Tu Lishan à déjeuner. C'est un vieux copain, son frère de l'air en brigandage. Tu Lishan accourt. Le repas est le choix. Il y a des ailerons de requin, du canard laqué, et le vin ambré colore l'intérieur des petites coupes de porcelaine. Heureux, les deux compagnons évoquent leurs plus beaux crimes. Te souviens-tu? Oh, comme c'est bon l'amitié! La fête est finie, Tsang accompagne tout jusqu'à la porte. Les politesses de cérémonie durent longtemps. Enfin, tout met le pied dans la cour. Un peloton l'attend et le fusil en marche. Tsang Shaolin fait décapiter Lu Linxian. Il saisit la tête, saute à cheval, éperonne sa bête, arrive bride abattue au palais du vice-roi et pose le trophée, tout sanglant encore et tout chaud, sur le bureau impérial. Tsang était devenu honnête homme. C'est la première phase de sa vie. Voici la seconde. Le maréchal Tartare, qui commandait alors dans le Mukden, prend peur de Tsang. Il expédie en Mongolie. Tsang sait déjà que dans la vie des hommes illustres, il y a des moments où ils doivent s'effacer. Alors il va en Mongolie. Soudain, la révolution chinoise éclate. Nous sommes en 1911. Le maréchal Tartare fait défection à l'Empire. Le vice-roi de Mandchourie se tourne vers Tsang Shaolin. Le colonel Tsang rentre de Mongolie et étrille le maréchal Tartare. Mais c'est le maréchal qui avait vu juste. La République l'emporte. Qu'importe, oh, Tsang n'en est pas à un régime prêt. Au nom de la République, il fait alors tomber les têtes qu'on lui faisait hier au nom de l'Empire. Et avant-hier au nom du mandarin. Il s'y connaît, c'est son métier. Grâce à lui, le calme renaît et il est nommé général. Alors, il rappelle tous les chefs de brigands, ses amis, et les nomme d'office capitaine dans l'armée régulière. La Chine, suivant sa norme, entrait dans une période de décomposition. L'heure de Tsang avait sonné. Il se proclame vice-roi de Mandchourie, se fait maréchal et s'adjuge le sceau des 9 lions. Le film maintenant se précipite. Une autre guerre, en 1914, dit-on, occupe le monde et donne naissance aux bolcheviques. Bref, ces temps-ci, les bolcheviques envahissaient la Mongolie. Le sort de Tsang ne fit qu'un tour. Tsang se tourna vers Pékin et exigea 30 millions de dollars pour chasser Lénine de Mongolie. Pékin s'incline. Tsang en poche. Il va se mettre à la tête de ses armées, mais comme il ne peut partir qu'un jour faste, il consultera les sorts, la tortue et l'Aquilée. Les sorts n'ayant pas répondu, qu'il dit, il n'en a pas en Mongolie. Mais il constitue un gouvernement, commissariat des affaires étrangères, des finances, de l'intérieur, de l'instruction publique, il ne sait pas encore lire. Une cour, maître des cérémonies, chambellan, une garde d'honneur de 1000 hommes qui ne comptent que des coupe-jarrets ayant au moins à leur tableau 2 crimes bien pesés, et son fils, 20 ans, est bombardé général et la commande. Un ordre terrible règne en Mandchourie. Il est impitoyable pour les pillards, les irréguliers, les bandits. Quand il sort, quatre autos blindées forment son cortège et l'on sait la voiture dans laquelle il est assis. Et quand il met pied à terre, un premier cercle de soldats, le regardant, l'entoure et dos à dos, un second cercle fait face, celui-ci, à l'attentat possible. Il est le centre d'un soleil dont les rayons sont les canons de fusil. Son armée est de 300 000 hommes. Il siège à Boukden, invectif Pékin, vaut personnellement 100 millions de dollars, rêve à l'Empire et consulte matin et soir son magicien noir, un devin aveugle. Le tyran me donnera audience à 3 heures en sa résidence royale. Tang ne doit pas être d'humeur rose. Ce lundi, il fit décapiter son beau-frère, flibustier, qui osa en ses noms et places toucher dans 2 villages le revenu de la gabelle. Ce mercredi, il ordonna de trancher le cou à Kanchuan Chang, son chef de police, qui avait berné les Japonais en enlevant à leur barbe et dans un cercueil un vieux et cher bandit, sien ami, condamné par le tribunal nippon. Et ce vendredi, pour punir nous ne savons quelle coquetterie de femme, il expédia sa seconde concubine bien-aimée, comme bonzait sa vie dans une bonzerie à 200 lits d'ici, proche la baie Sibérie. Tant pis pour la bonzesse, elle avait qu'à bien se tenir. Un coulis-pouce me conduit au rendez-vous, et je pense au père de Tsang. Nous passons sous l'une des plus vieilles portes de Chine. C'est une cour des miracles, dont le miracle principal consiste en ceci, que plus les mendiants affaissés là, comme de vieux paquets de hardes, tuent de parasites, plus ils se grattent. C'est la multiplication des poux. Nous sommes dans la ville chinoise. Les avenues sont répugnantes et les ruelles nauséabondes. Même pour une couveur boucanée, ces cités sont subitement écœurantes. On ose jeter à terre le bout de sa cigarette par pitié pour lui. Les pauvres petits canaris, aux portes des taudis, s'épouillent désespérément du bec. Chaque Chinois, prenant ses narines pour une mitrailleuse, pressant sur la gâchette, mitraille l'horizon. L'ordure est reine. L'interprète doit m'attendre à la porte. Nous roulons maintenant le long d'un haut mur par une impasse qui n'est autre qu'un couloir puant. Le palais de Tsang est au bout. J'aperçois en effet le corps de garde, lance en main, qui bouche l'entrée. Le coulis-pouce, comprenant subitement où je l'amène, tremble des bras, pose les brancards et s'apprête à fuir. Je la grippe et il se remet en marche. Mais le poste n'a pas bon œil. En voyant que nous avançons, il croise la lance. Le coulis-pouce lâche tout, décampe. Et 40 minutes plus tard, en sortant de l'audience, je constaterai qu'il n'est pas venu chercher son véhicule. Je n'ai donc pas payé. Bon, j'y ai gagné 20 cents. Mon arrivée était guettée de la cour intérieure. Sur un ordre, les lances se relèvent. Je donne ma carte à un Chinois qui s'incline. En Chine, la carte est une chose très honorable. Elle fait partie de votre personne même. On ne conçoit pas plus un honnête homme sans carte que chez nous un citoyen libre sans décoration. Le serviteur fidèle à 2 crimes au moins saisit cérémonieusement mon carton de ses 2 mains. Il le coince aux 2 coins entre pouce et index et les coudes collés à ses flancs. Grave, il me précède comme s'il portait non un pistolet de dernière qualité, mais par les oreilles, la tête de Saint-Jean-Baptiste. Je franchis un premier enclos. Dans une deuxième cour, un perron sur un perron, campe une nouvelle garde, 2 hommes, 10 lances et 2 fanions à dragon vert sur soie rouge. Les lances se redressent, les fanions saluent. Merci. Je suis dans l'antre. L'interprète me prend. Puis un Chinois obèse, robe de brocart, casque de satin, et la bienvenue sur la face m'envoie 3 coups d'échine par la figure. Ce doit être le grand chambellan. Son dos est encore courbé que sanglant Lin, le tyran, brusque les préliminaires. Des mains invisibles soulèvent une tenture. Il apparaît au fond d'un salon à gauche. Il n'est pas plus grand que Napoléon. Sa tête est celle d'un épervier qui, depuis un mois, n'aurait pas trouvé un seul bon morceau de charogne à se mettre dans le bec. Il est inquiet, maigre, fin, et dans son corps, bon, j'ai toujours sur moi un appareil radiographique, je me rends compte que son âme n'est pas droite, mais de biais. Quant à son regard, j'ai bien cherché, je ne l'ai pas vu. Il n'y en a peut-être pas. Il est vêtu de la robe et de la camisole nationale. Ses mains sont dans ses manches, comme dans un manchon, et son chef est couvert d'une calotte d'ecclésiastique catholique romain. Sur cette calotte, une perle. Ah, mesdames, quelle perle! Mais de quel pillage sort-elle? S'il s'endort pendant l'audience, là, lui vole. En sa présence, le sang de tous les serviteurs s'est figé. Il me prie de l'honorer en m'asseyant dans son fauteuil. J'y jette un coup d'œil, pas de pouls, bien. L'interprète restera debout et, croyez-moi, après l'audience, il pourra parler savamment sur la gamme des chairs de poule. Des paravents sont derrière les sièges et il remue. Cinq gardes privés, ceux-là à trois crimes, guettent par les fentes. « N'aie pas peur, me dit-il, on ne te fera pas de mal, tu es mon hôte. » « Et ton vieux copain, Toulitsan, pensais-je, magnifique canaille. »« Excellence, lui dis-je, je ne suis pas grand. » « C'est moi qui suis tout petit, répondit-il. » Ainsi échangeons-nous, tels d'authentiques mandarins, les politesses nécessaires. De sa main droite, dont l'ongle du petit doigt est long et recourbé comme une griffe de panthère, il me présente la tasse de thé vert et de sa main gauche, il soutient sa main droite pour que ses deux mains, de la sorte, soient à mon service. « Voulez-vous demander à son Excellence, dis-je à l'interprète, appelez ce vieux fourbant, son Excellence, me plonger dans le plus haut ravissement. S'il est exact qu'elle compte d'ici peu déchaîner la guerre autour de Pékin, l'interprète, qui n'avait déjà plus de salive, fit son devoir. Un sourire vernit la face de Tsang. Ses paupières se fermèrent. Un silence plana. Il dort ? Interrogeai-je. L'interprète était raide comme un piquet au bout duquel une feuille aurait tremblé. « La Chine est grande, grande !» finit par murmurer le tyran. « Mais votre Excellence sait-elle que le reste du monde tient la Chine pour un pays anarchique ?» L'interprète fait d'immenses efforts pour ne pas avaler sa langue. Cependant, il trouve de nouveau la force d'accomplir sa mission. Oh, cette fois, je crois que Tsang va ronfler. Il glisse le long de son fauteuil. Ses paupières sont définitivement closes. Il susurre. La Chine est la Chine, le reste du monde est le reste du monde. Monsieur le maréchal, peut-être ainsi le toucherai-je au vif. Croyez-vous que la Chine soit présentement en état de perfection? Oh, l'interprète me supplie du regard. « Traduisez, dis-je. » Tsang répond. « Les phases de la Chine sont chinoises. Nous les endurons parce que nous savons. Le reste du monde, lui, croit savoir. » Maréchal paraît avoir requinqué. J'en profite. « Ne sentez-vous pas, monsieur le maréchal, que pour un homme tel que vous, qui a la force, la chance en poupe, ce serait un grand rôle à jouer que celui d'unificateur de son pays. » Oh, l'interprète est subitement frappé de paralysie de la langue. Il me regarde effaré. Allez, dis-je, il ne vous tranchera pas le cou sur place. Mais le malheureux bafouille et de sang s'endort définitivement. Ai-je lui volé sa perle? J'examinais les lieux quand soudain Tsang, se réveillant, frappa par trois fois dans sa main. Deux Chinois, costauds, accoururent. Je l'ai reconnu, c'était son chambellan et son ministre de l'Intérieur. Face au Tout-Puissant, ils s'immobilisèrent, le cou tendu. Chang, sec comme un gourdin, il m'a complètement oublié. Leur adresse, ce que dans les ambassades on appelle une rude engueulade. Les deux colosses encaissent, échine courbée. Les paravents bougent, l'interprète se ratatine. Tsang, calmé, ferme les yeux fixés au sol, comme s'il venait d'y découvrir un morceau de chair saignante. C'était au sujet d'un ci-devant mandarin condamné à mort avant-hier sur l'ordre de son Excellence pour malversation. L'histoire, lui revenant en mémoire, lui avait fait venir ses ministres afin d'avoir des nouvelles du cadavre. Mais les ministres n'en avaient pas de fraîches. Il me retrouve, oh, c'est un étonnement pour lui. Il daigne s'excuser, me fait dire qu'il a parfois les nerfs malades. Mais en compensation, il va me donner sa photographie en uniforme de gala, avec képi, plumet, grand cordon, sabre et tout le tremblement. Il ordonne qu'on la lui apporte. La voici. Le serviteur qui la présente est tremblant. Tsang réclame son pinceau et son gobelet de pâte d'encre. Il va me prouver qu'il sait écrire, oh, depuis 2 mois. Alors, sur le carton, en caractère chinois, il trace lourdement « Tsang Shaolin à Monsieur Albert ». Le satrape fera davantage. Il me prêtera son auto. C'est pour mettre son image à l'abri d'un attentat. La voiture vient se ranger contre le perron. Elle est marquée à son chiffre TSL. C'est la terrible auto jaune blindée, mitrailleuse sur le siège, épouvantail de la cité. À sa vue, les Chinois se précipitent dans leur maison, les rues se vident, la terreur se lève. Les fanions me saluent. Quant à Tsang, que je cherche pour les grands adieux, il a disparu. Alors un soldat, accroché à chaque portière, un troisième au volant, un autre à la mitrailleuse, dans le tourbillon d'une sirène mugissante, je fends, tirant à mon tour. Mulden, terrifié. Une assez curieuse journée à Pékin. Ma joie est sans mélange. J'ai trouvé mon Eldorado. Il y a des hommes cupides qui s'en vont par le monde pour éprouver des vines d'or. D'autres aimant la lumière pour chasser les puits de pétrole. Des troisièmes, une lanterne entre les deux yeux, attendent vibrant des nuits entières aux lisières émouvantes des jungles un rendez-vous secret avec le tigre noctambule. Et moi, votre petit serviteur, je cherchais le pays sans maître, la ville chimérique de l'anarchie totale. Dieu m'a comblé, je la tiens, c'est Pékin. Qui veut s'offrir le temple du ciel dont les tuiles sont si bleues que les anges s'y trompent et, croyant gagner leur demeure, passent la nuit sur les toits? Qui veut acheter le palais d'été? Qui rêve de démolir 20 mètres de la muraille pour se construire une bicoque avec ses pierres sacrées? C'est à vendre. La plus échevelée, foire d'empoigne des temps anciens et modernes, est ouverte. Amateurs d'antiquités, d'enclos nationaux, de manuscrits catalogués, Rockefeller et tous les autres, roc du pactole, accourez! Voulez-vous les tombeaux des empereurs, Ming? Je vous les vends. Je vous signe même sur facture la permission de les débarquer 20 jours après à San Francisco. À Rothschild, j'offre le temple des lamas. C'est tout le Tibet. Je lui fais même un lot. Je lui vends les lamas du même coup. C'est une affaire. C'est bon, je mange peu. Que M. Baron me télégraphie si cela lui chante. Dans 46 jours... Il a le monument, les prêtres, la crasse et les statues impudiques, Franco-Marseille. Qui désire l'autel du sacrifice en marbre blanc, où les empereurs, vêtus de bleu à 3 heures du matin, la seconde nuit de pleine lune, face au ciel, venaient de leurs mains transparentes égorger la bêlante victime? C'est un beau morceau à 3 pourtours et 3 rangs d'escaliers. Il doit peser lourd. Mais on s'arrangera. Les messageries maritimes feront 30% de réduction pour le transport. Je le prends sur moi. L'hôtel pourrait servir, par exemple, à exhiber 2000 danseuses à l'international. Je propose cet achat à Monsieur Volterra. Je suis heureux en affaires. 1 million de dollars, le port en sus. C'est pour rien. Allez, enlevez le colis. Entre les murailles de Pékin, l'anarchie déferle. Mais c'est une bonne fille d'anarchie. De petits coups de sabre de temps en temps. Pas de terreur, des sourires, voire des éclats de rire. Oh, je n'ai jamais tant ri que depuis que je suis à Pékinois. Je me réveille pour rire. À table, je m'étrangle parce que je ris. Et le soir, on a une peine énorme, inouïe, à s'endormir, tant on rit toujours. Il y a du haschich dans l'air. Tenez, nous allons vivre ensemble cette journée. 8 heures du matin, le boy pénètre dans ma chambre. Oh, je préférais évidemment que ce fût le premier prix de beauté du concours du journal, mais c'est le boy. Immédiatement, il me crie: Tout va bien! Cela signifie que ni Tsang Tsaolin, mon vieux copain, ni Wu Peifu, ni aucun autre des 20 pirates armés n'est entré de nuit dans la capitale du Nord. En un mot, que l'ordre règne. Bon, lui dis-je, continue de ne pas t'en faire et passe-moi le journal de Pékin. Et je lis. Hier après-midi, les professeurs des universités, écœurés de ne plus être payés depuis 7 mois, ont gagné le ministère de l'instruction publique et se sont emparés de la grande antichambre. Ils y ont passé la nuit, déclarant qu'ils ne partiraient que dollars en poche. Les professeurs dames avaient imité leur exemple. Elles ont emporté d'assaut le propre salon du ministre par intérim, où elles ont également passé la nuit. Les professeurs refusant de se retirer, le ministre a décidé de les nourrir. Des cuisiniers supplémentaires furent engagés, 50 tables dressées, 25 pour les hommes, 25 pour les femmes. Boy, mes souliers, mon chapeau, ma canne, je vais aller voir ce ministre. Et je saute dans le rickshaw, j'arrive, il sortait. Oh, dommage, fis-je, montez avec moi. Il allait à la présidence du conseil remettre sa démission. Mais, dis-je, le président du conseil n'est pas là. Il est en congé depuis 83 jours à Tientsin. Bon, je trouverai peut-être quelqu'un, fait-il, on ne sait jamais. Nous arrivons. Une frise de dragons arrogants rehaussait la demeure du premier à la hauteur du rez-de-chaussée, et deux lions chinois de joviale humeur, assis chacun sur une fesse, grimaçant et en bronze, faisaient les honneurs de la porte. Le ministre par intérim demande un remplaçant du président. On ne l'a jamais vu. Il demande l'intermédiaire du remplaçant. Bon, on ne l'a pas vu davantage. Alors, dans un moment de décision, il remet sa démission au portier. Il y eut alors grande palabre entre le ministre et le portier. Que vous disait-il? Oui, oh, il me conseillait de conserver le pouvoir. Mais qu'on me tranche la main, les 4 doigts et le pouce, si ce que j'écris n'est pas authentique. 10 heures, repassons par l'hôtel. Dans le hall, je me heurte à une délégation. Ce sont les fonctionnaires du ministère des Finances. Ce ministère, possédant dans une banque un dépôt de garantie de 40 000 dollars, les fonctionnaires pensèrent qu'un dépôt de garantie ne pouvait être mieux employé qu'à les garantir de la faim. Légalement, ils établirent un chèque que le gérant des deniers publics lui-même, à la dernière extrémité, contresigna sur le champ. Hélas, le chèque était bon, mais la banque n'avait plus le sou. Alors, ces messieurs venaient à l'hôtel où logeait l'un des pontes de l'établissement défaillant. Ils venaient lui faire de la musique. Mais le pont avait l'oreille fine, aux premières mesures. Filant par la boutique du coiffeur, il bondit dans son rickshaw. Les affamés veillaient. Ils virent s'enfuir le banquier. Alors, chèque haut, bondissant eux aussi dans les rickshaws, criant comme des putois à qui l'on prend leur peau pour en faire une fourrure, ils lui donnèrent la chasse. Malheureusement, le vent jaune qui soufflait enveloppa bientôt l'équipe, et le reste de l'histoire se perdit dans la poussière. Sortons, et comptons la muraille meurtrière qui cuirasse ce quartier d'élégation, deux personnes rient. Depuis que je suis à Pékin, je ne veux plus qu'on rie sans moi. Ils lisent une affiche imprimée en français, en anglais et en chinois. Avis. Oh, je transcris textuellement. Le ministre des Communications annonce à tous que les biens des hommes de fer, des chemins de fer tels que bâtiments, rails, wagons, bateaux et matériaux divers, y compris les bons du trésor, constituent, si peu qu'il en reste, la propriété de l'État. Après avoir ordonné aux diverses administrations des chemins de fer de ne plus les vendre ni de s'en servir comme garantie pour des emprunts personnels, le ministre se fait un devoir de déclarer par le présent avis que si une administration chinoise à l'intérieur du pays ou à l'étranger vend les biens suspensionnés, l'opération ne sera pas reconnue par ce dernier qui se réserve d'agir en des temps meilleurs. Eh bien, maintenant, prenons le Rizhuo et dirigeons-nous vers Xiamer, la porte de devant. Un ancien ministre exilé, mais qui s'est administré lui-même l'amnistie, veut me faire déjeuner. Oh, je suppose qu'il doit se cacher. Et sa compagnie, voilà 6 mois, j'ai fait la traversée. Il me disait alors n'être pas excessivement fier de sa décision. « Peu serait forcé de prendre des précautions, » répétait-il. « Nous y voici, oh, c'est bien lui. Il ressemble un peu plus à un petit bonhomme d'ivoire. » Ayant retrouvé la bonne vieille drogue de derrière les fagots, il va fumer quelques pipes de trop. Ben, c'est pas mon affaire. Il y a d'autres hôtes, et il me présente à l'un d'eux. Le chef de la police. Quoi, vous vouliez vous cacher et vous inviter le chef de la police à déjeuner? Oh, le bobeur de lui. Il est le chef de la police, mais il n'a plus de police. C'est vrai, me dit l'éminent fonctionnaire. J'ai des milliers d'hommes sous mes ordres, mais je ne sais pas depuis quelque temps à qui ils obéissent, car en tout cas, c'est pas moi. Mais, dis-je, on en voit beaucoup dans les rues. Hélas, monsieur, on n'en voit que trop. Je ne puis mettre le nez dehors. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils me sautent dessus et me demandent de les payer. Voilà, fit mon ancien compagnon de grande mère. Voilà le chef de la police. Chaque fois qu'il voit poindre un de ses agents, il se sauve comme un voleur. Vous voyez qu'il ne peut pas faire de mal. Magnifique Pékin, fleur glorieuse de l'Asie. Tu n'es pas que l'objet de ma gaieté, mais l'éblouissement de mes yeux. Aussi vais-je me promener à la fin du jour sur le mont du paysage illimité, que l'on appelle aussi la montagne de charbon. Et c'est de cette façon que nous allons rencontrer M. de Fleuriot, ministre de France. « Monsieur le ministre, lui dis-je, vous êtes donc archéologue. J'ai vu que vous opériez des fouilles dans votre jardin. »« Des fouilles ? Oui, en cachette encore. Vos boys creusent, mais dès qu'ils entendent un pas, ils s'arrêtent. » Monsieur le ministre de France comprit que je ne connaissais rien à la vie pékinoise. « Mais il ne faut pas des fouilles, dit-il, au contraire. Ils enfouissent des trésors. » « Vous avez des trésors ? Vous êtes bête, fit-il. Ce n'est pas des trésors à moi, mais à eux, à leurs pères et mères, à leurs amis. Ils craignent des troubles, ils cachent leurs biens. On creuse ainsi dans toute élégation à cette heure. C'est fort intéressant à observer. C'est le meilleur baromètre pour juger la situation politique. Ils enterrent, ça ne va pas. Ils déterrent, ça va. » La diplomatie, voyez-vous, est un grand art des nuances. La journée n'est pas terminée. Heureusement, parce que nous n'avons pas encore rencontré le général Gould. Et quand je passe un jour sans voir le général Gaut, ma rate, devenue exigeante, est toute morose. Gaut est un caporal chinois, suédois, qui est général chinois. Il vint de la Scandinavie, voilà peu d'années, dans le bon empire du milieu, comme vendeur de poils de cochon sur faim. Il avait pensé qu'une aussi délicate marchandise serait recherchée des mandarins pour des usages que lui-même n'en trouvait pas encore très bien. N'ayant pas fait fortune, il se fit général, et depuis, ça va. Le voilà qui passe. « Bon général, vous allez dans la rue de Pas ce soir ?»« Oui, je cours régler cette histoire d'hier. Vous savez, ces soldats qui assassinaient leur colonel parce qu'ils ne les voyaient pas. Venez avec moi. »« Oh non, 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 je n'aime pas ces séances. Vous allez les fusiller au moins. » Le fusil, mais êtes-vous fou? Mais je vais leur donner un à-compte pour qu'ils ne saignent pas cette nuit le seul colonel qui reste.